Bonjour chers auditeurs, Claire Tiercelin pour l'émission Fondateur, au cours de laquelle je vous présente des hommes et des femmes qui ont compté dans notre diocèse. Aujourd'hui, je vous parlerai d'une femme décédée il y a juste 30 ans, à l'origine de la fondation d'école en Eure-et-Loire, mais aussi dans toute la France. Il s'agit de Mademoiselle Alice Damoiseau. Cette femme, qui a eu un destin assez exceptionnel, est née à Chartres en 1897 dans une famille chrétienne très pratiquante. De santé fragile, il lui sera refusé d'entrer dans une congrégation religieuse et pourtant elle vécut 95 ans avec une vitalité incroyable. Refusant le mariage, elle prononce des vœux de chasteté. Très active à la paroisse cathédrale avec les jeunes, on lui demande de prendre ensuite la présidence de la jeunesse catholique féminine du diocèse. Elle avoue qu'elle connaissait bien les chartraines, mais ignorait les problèmes des rurales. Cependant, elle accepte. Tourmentée de voir les jeunes des campagnes quitter leur village pour la ville, elle était souvent témoin de jeunes rurales désemparées. Un jour d'octobre 1940, elle apprend par une amie qu'il y a à Paris un nouveau secrétariat d'État à la jeunesse, une personne remarquable de toutes les questions de jeunesse féminine. Elle décide d'aller la voir. Et cette demoiselle lui demande d'accepter de fonder un foyer de jeunes chômeuses. Elle rejette cette proposition en disant « Comment voulez-vous que je passe de l'action catholique à l'action d'État, de l'évêché à la préfecture, mais c'est impensable. » Après concertation, les autorités religieuses lui conseillent d'accepter. Elle réussit à créer ce centre qui a fonctionné jusqu'à la fin de la guerre et a reçu plusieurs centaines de jeunes filles de 16 à 23 ans. Puis, on lui demande de fonder un centre à la campagne dans les mêmes conditions avec le même comité de gestion. C'est ainsi que fut ouvert un centre au château de la Rivière à Pongouin, en Eure-et-Loire, le premier d'une longue série. Elle y organisa des semaines rurales qui avaient lieu de mars à la Toussaint pour les jeunes filles de la campagne. Puis on la nomme déléguée nationale de la jeunesse. Dans plusieurs départements, elle trouva des lieux pour former les jeunes filles. Il fallait maintenant trouver du personnel qualifié, former des cadres avec une formation de 2 ans pour des jeunes ayant au moins 18 ans au départ, avec une formation générale de la valeur minimum du brevet élémentaire. Dès 1946, le premier examen pour les cadres fut contrôlé par le ministère de l'Agriculture. La valeur éducative des maisons était importante. La plupart des centres assuraient une formation technique sérieuse. Une formation familiale, sociale et religieuse. Au départ, beaucoup de congrégations religieuses ont pris cette voie. Les communautés, dans toutes les régions, ont été coopérantes et certaines avaient de 10 à 15 établissements. Nous voici en Eure-et-Loire avec la plus grosse réalisation de Mademoiselle Damoiseau, évoquée par elle dans ses mémoires, je la cite. En 1954, notre évêque offre, à des conditions exceptionnelles à notre comité, une propriété rurale à Minières, un orphelinat de garçons. Le comité accepte et ouvre un centre d'études rurales pour les filles. Après des travaux indispensables reconnus assez vite par le ministère de l'Agriculture, cet établissement recrute assez rapidement des jeunes rurales. La direction est assurée pendant une vingtaine d'années par une sœur de Saint-Paul, sœur Christiane Gaudron. Au fil des années, il faut agrandir et assurer internat et demi-internat. Puis, vers 1960, le président parisien demande au comité s'il serait possible, sur le grand terrain, de faire bâtir un établissement pour recevoir des enseignants pour formation accélérée ou recyclage indispensable en raison de cet enseignement nouveau suscité en France. En 1964, grâce à une subvention, surgit un bâtiment comprenant 50 chambres et diverses salles de cours. On peut dire que c'est de toute la France que sont venus à Minières les professeurs de l'enseignement rural et agricole. Plus de 1000 personnes se sont succédées pour des sessions plus ou moins longues pendant les vacances ou pendant l'année scolaire. En Eure-et-Loire encore, le même comité avait ouvert une petite école à Toury, puis à Auneau. Ces deux petits centres ont fermé. À Annette, une école qui s'appelle aujourd'hui Lycée agricole Gabriel Bridet ouvre à la même époque. Dans une émission précédente, je vous ai parlé du chanoine Bridet et de Madame Antoinette Goussu à l'initiative de cette création. Devenue secrétaire générale du Centre féminin national pour l'enseignement et la formation rurale, c'est sous son impulsion que plusieurs centaines de centres ruraux ont été ouverts en France. Certains petits établissements ont fermé, mais il en subsiste encore un grand nombre, transformés aujourd'hui en lycées agricoles. Mademoiselle Damoiseau était très appréciée au ministère de l'Agriculture, ce qui lui a permis de faire avancer bien des dossiers. Reconnaissant d'établissements, programmes, examens. Pour équiper tous ces établissements en matériel, elle eut le génie de partenariat avec des sociétés comme Singer, qui équipa les établissements de machines à coudre, machines à laver, réfrigérateurs. Tous ces biens étaient payés par la taxe d'apprentissage. Elle entretenait aussi des liens étroits avec la société Nestlé, qui fournissait beaucoup de produits alimentaires, d'autres accords aussi avec les Charbonnages de France ou EDF. Comme j'ai eu la joie et l'honneur de travailler à ses côtés à Minières pendant plusieurs années, je peux témoigner de qui était Mademoiselle Damoiseau. Son premier souci était de promouvoir les jeunes filles de milieu rural, de les former, de les ouvrir au monde, de leur donner le sens des valeurs humaines et chrétiennes. C'est à son initiative que fut créé le concours de la meilleure ménagère qui devint, quelques années plus tard, le concours de la jeune rurale. Toutes les élèves des écoles agricoles concouraient par écrit. Deux élèves étaient sélectionnés dans chaque département et participaient à la finale régionale. Là, les jeunes filles passaient les épreuves orales et pratiques. Mais surtout, ces finales régionales étaient l'occasion de réunir toutes les personnalités du département afin de mettre en valeur les jeunes filles du monde rural auxquelles elle était si attachée. Chaque lauréate repartait les bras couverts de cadeaux, machines à coudre, vaisselle, livres qui avaient été sollicités auprès des grandes marques de l'industrie avec lesquelles Mademoiselle Damoiseau entretenait d'excellentes relations. Mais le summum était la finale nationale. Une centaine de jeunes filles de toute la France étaient invitées à venir passer une semaine à Paris. Une fois les épreuves passées et en attendant les résultats, ces jeunes filles avaient la chance de visiter la capitale et même d'être reçues à l'hôtel de ville de Paris et au Sénat. Enfin, une soirée clôturait ce concours avec la proclamation des résultats et la remise de superbes cadeaux. Un repas de fête était servi aux jeunes filles et aux 200 invités composés de nombreuses personnalités. Mademoiselle Damoiseau tenait à ce que le monde agricole et rural soit reconnu et à travers ces jeunes filles, c'était à tout ce milieu que l'on rendait hommage. Mademoiselle Damoiseau n'était pas religieuse, mais elle avait consacré sa vie à Dieu. Elle assistait à la messe quotidiennement, sauf si des déplacements l'en empêchaient. Elle priait beaucoup. Ce qui était visible, c'est qu'elle avait le souci de la formation humaine et religieuse des jeunes filles dont elle avait la charge. Lorsqu'elle ouvrit les sessions de formation des monitrices, un prêtre venait régulièrement. Les professeurs et les intervenants étaient choisis non seulement pour leurs compétences techniques ou pédagogiques, mais aussi pour leurs qualités humaines et chrétiennes. Un dernier trait de sa personnalité que je voudrais encore évoquer pendant ces dernières années de sa vie, le désintérêt pour sa personne. Pendant 10 ans, handicapée par des problèmes de santé, elle resta enfermée chez elle avec l'aide d'une personne bien dévouée. Lorsqu'on lui téléphonait pour avoir de ses nouvelles ou lorsqu'on lui rendait visite, on ne pouvait pratiquement pas savoir comment elle allait. Aussitôt, elle nous retournait la question, s'intéressant aux autres, à nous, à nos familles, à nos amis, mais aussi à l'école de Minières, dont elle suivait avec beaucoup d'intérêt tous les changements et nous prodiguait ses encouragements. Elle n'avait pas du tout envie de passer ses moments d'entretien à parler d'elle. Elle recevait la communion très souvent, apportée par les prêtres de la cathédrale. Et lorsque l'abbé Pichon, à la retraite, habita le même immeuble qu'elle, il venait célébrer la messe dans son salon. Oui, Mademoiselle Damoiseau a bien mérité de figurer dans ma sélection de fondateurs. Elle a contribué à la fondation d'une multitude d'établissements dans tous les départements, mais surtout par conséquent à la formation de plusieurs milliers de jeunes filles rurales. Quand on lui avait proposé dans les débuts de sa carrière la formation des jeunes filles de la campagne, elle, la citadine de Chartres, avait avoué qu'elle ne connaissait pas ce milieu. Toute sa vie aura démontré que pourtant, le pari a bien été gagné. Au revoir, chers auditeurs, et rendez-vous le mois prochain.